France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Une ville, on étudie son histoire en lecteur, chez soi, ou bien dans la rue, avec ou sans guide, mais en levant le nez et en baissant les yeux, en arpentant la ville, quoi. En touriste intelligent, touriste venu d'ailleurs ou touriste de sa propre ville. Quelques semaines avant sa mort, Léon-Paul Fargue enregistrait pour la radiodiffusion française sa vision des premiers arrondissements de Paris.
Le premier arrondissement de Paris est le plus petit de la famille, mais il en est le cœur. Il constitue le noyau de l'incomparable fruit. Il en est à la fois l'œil, le ventre et le passé. Et je m'explique. Le ventre, en raison de la présence des halles sonores et colorées sur son territoire, les halles, si chaudes à l'œil, si chaudes à l'âme, par leurs couleurs en ordre, comme sur une palette. L'œil, par la rue de la Paix, la vue de l'Opéra, presque jusqu'au bout. La rue Saint-Honoré, le meilleur de la rue de Rivoli et la place Vendôme. C'est de là que partent ces étincelles, ces illuminations, ces cris de cerveau nommés goût d'une façon générale. La chemise bien coupée, la silhouette qui fait retourner les passants, les diplomates, les caméras et les badauds avec, la silhouette de la Parisienne, la robe à laquelle on ne saurait ajouter un mot, un bout de fil, le chapeau digne de ce nom, le bijou aussi net, aussi nécessaire qu'une étoile. Bref, tout ce qui se voit dans la pure lumière des bonheurs d'expression. C'est le centre du premier arrondissement, comme si la poudre même de Paris se fût rassemblée là, entre les ravissantes maçonneries, les baies et les arcades de ce coin, qui jouent sans cesse à faire oublier la mort pour la joie, la mélancolie pour l'esprit de création enthousiaste, et le premier arrondissement de Paris, le chef de file, le premier joue de ce trésor, est une bande de terre assez courte, assez étroite, mais bougrement, mais divinement favorisée, qui s'étend entre la rue des Petits Champs, chère à Danton, et la Seine. D'un côté, le Louvre, de l'autre, le Jardin des Tuileries. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure le passé. Le Louvre, c'est le passé de Paris complet, suivi comme une martingale au jeu, le passé chaque jour enrichi autour d'un palais qui est là comme son secret de longévité. Telle est la gloire du premier arrondissement. Il faudrait des années pour le visiter de fond en comble. Il est bien trop chargé, trop riche. C'est un vin qui monte à la tête. Il contient des parures si nombreuses qu'un amateur d'âme perd le souffle à les vouloir posséder toutes dans le même instant. Le palais royal et ses jardins, tout enduits de fluides princiers, d'émanations impalpables et qui grisent. La banque, le ministère des Finances, eux toujours rassurants, en dépit de la folie des hommes. Car ici, les murs sont bons. La statue de Jeanne, la rue Cassillonne, les lingères fameuses, la maison de Madame du Deffand, les hôtels anglais, les bars discrets posés comme des jetons sur l'échiquier de l'histoire. Les artisans les plus subtils du monde, le personnel gazouillant de la couture, des stations de métro le long du fleuve, si bienveillants, si distingués, comme des piscines. Tout ça, c'est le premier arrondissement. Et je n'aurai garde d'oublier la Comédie Française, toujours murmurante et toujours noble, naturellement. Les Beaux-Arts, la Civette aux souvenirs de luxe, le théâtre du Palais Royal, les demeures de Colette, de Cocteau, la maison de Vidocq, la rue d'Aunou, les magnifiques terrasses de café de la place du Théâtre Français où, dans l'affairement cosmopolite, au beau milieu d'une transhumance perpétuelle rehaussée de klaxons, de trompes d'autobus, d'accents étrangers, de mobilité désordonnée, on trouve encore le moyen, devant quelques soucoupes, en société d'un vieux de la vieille, de bavarder longuement de Musset, de Jules Renard, de bien d'autres encore. Les grands rôles de jadis et les belles actrices du souvenir. Ceci le plus familièrement du monde et le plus solennellement, comme s'il allait faire explosion au milieu de son arrondissement. Cet arrondissement premier du nom, ce temps disparu, mais qui couve sous la cendre et les paupières. Paris a le don de retenir les charmes de ce qui passe, de les incorporer au présent, à l'avenir. Et dans le quartier où nous voici, le Louvre est là qui approuve, qui juge et qui autorise. Et que de fantômes rôdent le long des maisons où ils vécurent. Je les ai rencontrés quelquefois. Si vous n'avez pas les yeux mous, vous pouvez les rencontrer vous aussi. L'amiral de Coligny fut assassiné dans un hôtel de la rue de Rivoli. La salle du palais cardinal, qui faisait l'angle de la rue Saint-Honoré et du palais royal, fut occupée par la troupe de Molière jusqu'en 1673, puis par l'Académie de musique jusqu'à l'incendie en 1763. Robert Houdin, le prestidigitateur, vers 1845, je crois, installa son théâtre tout près de l'hôtel Mélusine, où se fit la première réunion de l'Académie française. Molière, qui naquit vraisemblablement en 96 rue Saint-Honoré, mourut près du 40 de la rue Richelieu. Léo Delibes, homme délicieux, musicien inspiré, habita le 209 de la rue de Rivoli. Le pauvre grand Chopin mourut au 12 de la place Vendôme, le 17 octobre 1849. Au café de la Régence, où nous sommes tous ou presque tous allés pour pousser du bois, nous connaissons la table où Bonaparte jouait aux échecs. Et ces places du théâtre français que s'élevait la porte Saint-Honoré, où Jeanne d'Arc fut blessée le 8 septembre 1429. Corneille mourut rue d'Argenteuil, Musset rue du Mont-Abord. Robespierre habita la maison du menuisier Duplay, rue Saint-Honoré, où se trouvait son perruquier. Et le dramaturge norvégien Bjørnson mourut au 208 de la rue de Rivoli. La capitale du deuxième arrondissement de Paris, si j'ose dire, c'est la Bourse. Et tout le monde sera de mon avis. D'accord ? Parbleu. La Bourse est ici le fond de l'affaire, le bruit et la fureur du lieu. Quant à l'âme de cette contrée remuante et murmurante, c'est la presse. Je sais bien que des journaux sont allés s'établir ailleurs, mais le centre du papier imprimé et crié, c'est la rue des Jeuneurs, la rue du Croissant, la rue Saint-Joseph et tous ces tortillons de rue qui dessine le ciel en forme de lézard. C'est la ruche de ce coin de la rue Montmartre qui sent encore les halles. La ruche où les quotidiens, les spéciaux, les techniques et les hebdomadaires se mélangent. C'est l'endroit où fut tué notre pauvre grand Jaurès. Ce sont les cafés où les jeunes du métier font leurs papiers dans la fièvre, où le téléphone est sans cesse en communication avec les ministères, le Parlement, les finances et même la police. Le goût de la capitale d'une nation est dans l'air. Ce deuxième arrondissement a un côté cerveau d'acier qui contient un sel aussi, une sorte de condiment que j'ai longtemps apprécié. La place de la Bourse est une gare d'autobus. Et, dans le coin du bâtiment, se trouve ce bureau de poste qui fonctionne nuit et jour. Que de fois j'allais courir l'aventure dans cette tanière, rien que pour voir la physionomie des gens qui demandent Naples, Édimbourg, Oslo, Bratislava au téléphone, et qui durent là des heures comme des pains au four, tandis qu'on fouille l'Europe pour découvrir leurs correspondants. Oui, bruit et fureur, rencontres inattendues, affaires, restaurants cossus, bien fournis. On allait autrefois manger une côtelette aux frites chez Champeau. Ils sont arrivés de Gap, d'Avalon, de Saint-Dié, de Tonnerre, pour s'occuper de tissus, de papier, de bois ou de cuir, et ils dînent dans la haute humeur de ce pays où le circuit des autobus, inscrit sur les véhicules, se mêle dans les imaginations aux jolis noms des titres et des actions. Vertu de choc, comme on dit. Site de poésie moderne, avec le côté parisien de la chose, des aspects « on chante dans mon quartier ». C'est peut-être dans ce coin de Paris, tout argent, traite, facture, ordre de vente, que se nichent les parigots les plus à la page. Mais tout change ici le dimanche et les jours de fête. La bourse de Brongniart et Labarre, dont la construction coûta plus de 8 millions de francs. Or, la bourse, avec ses 3456 mètres de superficie, n'est plus qu'une sorte de pyramide désaffectée dans laquelle se seraient endormis les touristes et les banquiers. Il se fait ici un silence de clinique qui glisse furtivement jusqu'au bord méridional des grands boulevards.
C'est bien dans le deuxième arrondissement. Rideau de fer abaissé, persienne close, le jour des flâneurs, le festival des badauds. On y est bien. Les autobus y glissent à l'aise. Le piéton fait des siennes tant qu'il veut. Les triporteurs, bicyclettes et voiturettes sont tombés dans les enfers, dans les dessous de ce théâtre de richesse et de ruines. Les érudits peuvent toujours songer à l'écrasement des valeurs du groupe Philippard en 1875, à la chute de l'Union Générale de 1888, au krach des mines d'or de 1895. Les autres préféreront écouter de la musique. Ils s'échappent de la rue d'Aboukir, des entours charmants de la Bibliothèque Nationale, des rives du boulevard Sébastopol, fleuve populaire qui coule sur la frontière de l'arrondissement, du boulevard des Italiens truffé de cinéma, du boulevard des Capucines, de la place Voyelle-Dieu, de l'Opéra Comique, de la rue Vivienne et les encoignures de ses postes de vie. Ils s'échappent de tout cela, mêlés aux vraies odeurs de l'homme de la rue, quelque chose comme une orchestration forte et sérieuse, telle que l'ont comprise l'un après l'autre Zola et Jules Romain. J'ai écrit jadis, et j'y penserai toujours avec la même émotion. J'ai écrit que le Marais, perle du troisième arrondissement, était une ville d'art dans Paris. On commence par s'extasier, je ne crains pas le mot, devant les merveilles et les finesses de l'hôtel de Soubise, où sont conservées aujourd'hui les archives nationales, et il y a de quoi. C'est une des visites les plus émouvantes que l'on puisse faire. Je dis qu'on commence par l'hôtel de Soubise, mais, aussitôt après, on est saisi, comme par l'effroi de l'admiration, devant 10 et 20 autres hôtels de la même puissance élégante et charmante. Le quartier en est plein. Tantôt splendide et poitrine en avant, tantôt caché d'un gris de papillons de nuit, protégé par des cours, ils sont tous pleins de politesse pour les passants. Aussi bien, le regard dépasse ici l'ensemble des maçonneries et file vers les retraites princières de l'Europe. Partout, dans tout endroit où le luxe de construire venait s'ajouter au bonheur de concevoir, on semble avoir pris pour modèle les salons ovales de l'hôtel de Soubise ainsi que la chambre de la princesse. Ce bâtiment charmant qui vous coupe la parole est le document le plus pur, le plus achevé que nous possédions sur le goût français et sur l'art ornemental de la Renaissance. C'est comme la cellule mère de l'architecture digne de porter ce nom. Certes, des mortels en chair et en os n'y vivent plus avec leurs dentelles et leurs souvenirs. Il est peut-être bon que de telles merveilles soient devenues la propriété de l'État. Le joyau pour tous. Regardez les piétons qui longent l'admirable maison. Et quels passants, Crinquebille, Monsieur Bergeret, Boubouroche, Monsieur Perrichon, la fille Elisa, Madame Bovary, tout le romanesque français dans sa liberté propre. Eh bien, ces personnages dans ce cadre deviennent des personnages de fresque. Il est impossible de ne pas leur deviner des affinités ravissantes, poétiques, avec le procès-verbal de l'exécution de Louis XVI, avec les Mérovingiens, avec le grand siècle, les grandes dames, les traités, Napoléon et tout le reste, qui sont conservés là. Oui, j'ai toujours aimé ce troisième pour sa densité, son côté Paris bien appuyé, et je me souviens d'en avoir tracé les frontières jusqu'à pouvoir les retrouver à l'aveuglette. À l'est, l'église Saint-Gervais et les archives. Au sud, la Seine, le boulevard Henri IV. Au nord, l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement et le boulevard Beaumarchais. De l'histoire, rien que l'histoire, cette accumulation de détails de haut goût, de vertes tenues, qui entretiennent le sérieux comme des grands crus dans une cave. Le pays si beau, si riche, si serré, où les sentiments courent au-devant de leur objet, comprend encore comme curiosité touristique et poétique le temple, les arts et métiers. Des arts et métiers partent chaque année ceux qui seront l'âme de nos ponts, les héros de la métallurgie et de l'électricité. Mais le temple est encore une vieille corde qui a sa musique propre. L'institution des chevaliers du temple avait eu ses origines à Jérusalem et fut approuvé par une bulle qui porte la date de 1113. Alors, vous vous rendez compte? Moi, quand je rôde, et tout le temps que j'ai rôdé dans le temple, je n'ai cessé de songer à Alexandre Dumas, à Pichegru, au Louis de notre histoire, à la mort du dauphin, à Madame Royale, à toute cette Grèce, des aventures antérieures qui font de la France un roman de cap et d'épée. Rien ne souhaite, rien ne subsiste de tout cela aujourd'hui. L'hôtel de Soubise est une administration, le temple est un carreau. L'ensemble est une fourmilière de rues commerçantes qui se jette dans la place de la République, cette mer noire de l'endroit. Et pourtant, les ombres sont là, comme des sentinelles, avec leur mélodie. Je ne puis me transporter, même en pensée. Et je suis sûr que vous êtes comme moi, que vous éprouvez les mêmes appels. Je ne puis me transporter dans le 4e arrondissement de Paris sans songer hautement, intimement et dans le même instant à Victor Hugo, à Verlaine et aux peintres. Ils sont unis pour moi dans la même sensation d'amour, de violence, de tendresse et d'art. Le 4e à Paris, ce sont les quais dont on ne sait s'ils ont été inventés avant ou après la peinture. L'hôtel de ville, l'hôtel Dieu, les îles, les arbres et les péniches, et enfin les tours de Notre-Dame, humaines, trop humaines, pourrait-on dire. C'est la poésie monumentale et familière, jetée au gré des vents et pour les seuls caprices du passant. J'adore retrouver ici et sentir autour de moi, avec ces pigeons et ces nuages, le bonheur d'exister et la tristesse de se souvenir. Pourquoi, disais-je le père Hugo? Parce que ce merveilleux bonhomme, le père Noël de notre littérature, avait sombrement flairé tout ça dans l'accumulation des détails parisiens et le foisonnement des rêves et des idées. Le parvis, les nuances des vieilles constructions, les toitures, les portes, et ce square tout neuf derrière lequel vivote l'Association Générale des Étudiants, les rues qui se nouent dans l'ombre de l'histoire, les ponts, les fleurs, toute une richesse de petites et de grandes choses, et les chansons qui rôdent autour. C'est un des plus fins moments de la sensation humaine. Plus loin, il y a Rivoli, Saint-Antoine. Mais d'abord les îles. Les îles avec les amis qui vivent ou qui vivaient dans cette délicatesse de touche. Charles-Louis Philippe, Lucien Jean, Chanvin, Léon Blum, Dignimont, tous, grâce à cette situation dans Paris, apparentés à Marquet, à Monet, à Utrillo et à Maximilien Luce, heureux mortels que ceux qui peuvent ouvrir leur persken les matins de joie ou de mort sur cette merveille bâtie. Les tours de Notre-Dame, au-dessus desquelles Rodin voyait évoluer des orages et des aigles, qui évoquent Berlioz, les guerres, les rois et le cinéma, il y a là une manière de bonheur d'expression qui monte à la tête, des romances douloureuses et justes dont on ne peut plus se défaire, un ensemble de teintes et d'allusions qui foncent encore la belle réalité. Quelle fois j'ai suivi des passants jusqu'au livre des quais, et des femmes douces et pensives jusqu'au moment où se refermait sur elles la porte de la cathédrale. Des passants disaient dans l'arrondissement la supériorité de la vie sur la mort, le triomphe de la pierre sur la poussière. Au loin, la Seine fredonnait des choses aux pêcheurs, à ceux qui regardent leur salive tomber gravement dans les remous glauques et qui sont poètes à leur manière. On comprend que les peintres, les meilleurs parmi nos peintres, se soient assis là des heures, des années entières, rien que pour admirer l'échange des valeurs sur les ardoises et le jeu souple de la plus belle lumière du monde sur un des endroits de la planète où le cœur et l'esprit se sont liés d'amitié pour la plus noble gloire des souvenirs. Je suis friand de ce gris qui a reçu, depuis que le démon de l'analogie occupe les sensibilités de ce monde, toutes les qualifications possibles. Mais le gris de la préfecture de police n'est pas le gris du Châtelet. Il n'est pas non plus celui de la place de l'hôtel de ville, lequel n'est pas non plus celui des pigeons de l'ensemble. Il faut faire une fois de plus ce voyage noble et ravissant, retourner aux sources, apprendre dans le 4e arrondissement en quoi consiste exactement Paris.
tout remonte à la mémoire, même pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de savoir s'il y a un passé de poids. Ils retrouvent alors les souvenirs, comme les maîtres retrouvent les règles.
Le 5e arrondissement. On ne sait peut-être pas bien où sont situés les autres. Et pas seulement à l'étranger, mais dans la province française, et même à Paris. Dites à brûle-pourpoint à quelqu'un, rue des Pyrénées, rue Henri Rochefort, ou plus simplement boulevard Bonne Nouvelle, rue du Faubourg Saint-Denis. Eh ben, 9 fois sur 10, l'ignore ou niche exactement ces choses pourtant véridiques. Mais dites boulevard Saint-Michel. Aussitôt, vous voyez bien que vous enfoncez une porte ouverte. Et le boulevard Saint-Michel est bien une porte ouverte. Une porte ouverte sur la pensée universelle, sur le monde amusant et pensant. C'est ça la gloire du 5e. C'est d'être le loup blanc des quartiers de notre planète un peu grise. Je ne nommerai donc pas, pour les Parisiens qui m'écoutent ce soir, les points merveilleux de ce merveilleux coin de France. Le Panthéon, la Sorbonne, les cafés où j'ai connu personnellement Verlaine, la place avec sa gare, ses bouquins et ses brasseries, le va-et-vient des cerveaux et les jeunes désespoirs, les vieux bérets et les folies, les terrasses et les excellents professeurs, les ministres, les grands diplomates étrangers qui ont fait leurs études à Paris. Enfin, tout ce que vous savez, tout ce qu'on sait sans le savoir. Non, je ne nommerai rien de tout cela. De tout cela qui constitue la mémoire poétique et solide d'une foule de mortels répartis dans le monde sous forme d'anciens de la rue de la Bûcherie, de consuls, de maîtres de français, de poètes d'avant-garde et d'éternels étudiants. Mais j'aimerais que sous les paupières et dans les oreilles de chaque auditeur de ce soir passât un frisson charmant, un peu triste. Un de ces frissons qui disent, entre autres choses, à des milliers de Parisiens et de provinciaux, car ici, ils ont fort à confesser, qui disent que, sans avoir eu le temps de faire des études ou l'occasion d'en faire, on n'en est pas moins de cet endroit du monde où l'amour, le jeu, le savoir, le sérieux et la folie se mêlent le plus agréablement et le plus finement qu'il soit possible à des éléments aussi divers de se mêler. Pourquoi ? Parce que l'on se trouve jeune. Jeune, surtout jeune. On se trouve en un lieu où la pensée aboutit au milieu d'elle-même, où les arbres de la jeunesse portent leurs fruits les plus réussis, où les sottises elles-mêmes ont une projection qui les excuse et qui les sauve. On fait des vers sans le vouloir, on croit au charme de la vie, à l'importance poétique de la vie, aux femmes de la vie, aux idées de la vie. Bref, la radio vous dira tout ça aussi bien que moi, mieux que moi, par la multitude de ses interprètes, de ses ressources. Elle sait, elle aussi, bien que plus jeune, et de combien, elle sait que le 5e arrondissement de Paris, pelouse et pesage d'étudiants, de bohèmes, chaque âge a les siens, décor de facilité parmi les difficultés, que ce 5e, avec ses écoles et ses cafés, son sérieux et ses blagues, son sommet et ses dessous, est en quelque sorte l'Olympe de Paris. Ah, comme disait Verlaine, retournons-y ensemble.
Le 6e arrondissement. Je n'hésite pas à dire que c'est celui que j'ai longtemps préféré. Il est plein, il est riche, il peut vivre en autarcie, comme on dit. Il est murmurant et créateur. Et je suis bien sûr qu'Albert Hiera, qui donne tant de ton, tant de mobilité et de mélodie à ses images de Paris, ne sera pas embarrassé pour orchestrer celle-ci. Au premier regard, le 6e est l'arrondissement de la littérature, des cafés les plus célèbres, et surtout depuis la fin de l'autre guerre. Et ceux qui ne sont pas du pays ont choisi, il y a beau temps, la place Saint-Germain-des-Prés, comme patrie à l'option. Elle en vaut la peine, car c'est une fine clairière d'esprit et de jeunesse où l'on aime, à toute heure du jour, rassembler ses souvenirs, attendre ses amis et faire le point. C'est dans cette charmante portion du Capitole que l'on se renseigne plus exactement sur l'état présent de la poésie, du cinéma, de la politique et des dessous de la vie parisienne. Que nos personnalités aujourd'hui illustres ambulent des bocs entre camarades et remettaient le monde en question avant d'être eux-mêmes au levier de commande. Que de soir et que de jour, j'ai passé là en compagnie de Valérie, de Ravel, de Segonzac, de Giraudoux, de 20 autres, tous amis intimes de l'incomparable paysage. Diderot et Descartes, les grands éditeurs, les galeries de tableaux, les Beaux-Arts, Saint-Sulpice et le souvenir de Renan, les rues du vieux Paris intellectuel et marchand qui se mêlent comme les tiges d'un bouquet, la jeunesse qui piétine avant de s'élancer vers la gloire et vers les honneurs, les petites revues chères à Maurice Barrès, l'Encyclopédie française, 10, 20, 30, 40 hôtels accueillants où se rencontrent les fondateurs d'écoles, les libraires, les professeurs, enfin l'amour et la méditation. Tout ça, c'est le sixième, c'est-à-dire un foyer chaud. Puis, cette rue de Rennes, qui part de Saint-Germain-des-Prés vers l'infini, ce boulevard Aspar et la rue du Bac, la place Saint-Sulpice avec ses oiseaux et ses silhouettes, des restaurants, comme on en chercherait vainement d'autres. Que d'étrangers venus ici pour bavarder quelques instants avec un universitaire, un peintre, ont fini par y élire domicile, n'en bouge plus. Et ils ont trouvé la flânerie, le sérieux, les renseignements indispensables pour comprendre les idées nouvelles et aussi une exquise clémence à l'égard de l'homme. Mes souvenirs les plus récents sont là, à cette musique des pierres et des jeux de rue, à des vitrines, à ces brasseries où il semble que tout s'organise en vue de supprimer la détresse et de la remplacer par le goût de vivre, par la douceur de s'asseoir à côté d'un artiste, d'un ami, d'un confrère. La rue Bonaparte, Adrienne Monnier et ses livres, Gertrude Stein qui vécut ici, la rue du Dragon, mon vieil ami Thibaudet, le surréalisme d'avant la guerre, les bibliophiles, ses beautés, ses relations, sont pour moi du quartier une irremplaçable famille. Pour finir, j'ajoute, et je suis bien sûr de parler, au nom de l'arrondissement, le sixième ne devrait être constitué et nourri que de noms propres. D'ailleurs, tout s'organise autour de ces noms propres. Les vieux de la vieille et les jeunes de la veine. Chacun a les siens. Pour moi, c'est Alfred Jarry, inventeur du grand ridicule, comme on dit le grand pan. Mon ami Marcel Olivier, le cher disparu, qui ne ratait pas un samedi. La romancière Edwige de Chabanne, l'auteur admirable de Cerise, la salle n'est pas perdue. Maurice Reclus et sa connaissance affolante de la Troisième République. Le grand peintre Francis Jourdain, Jean Cassou, Léo Larrier, historiographe du pays, les bosses de la rue de l'Abbaye, Marchenet, autre grand disparu de chez Lippe, et enfin, mon camarade Beauclerc, avec qui des mois durant, nous avons fait la fermeture de tous les cafés de cette petite patrie.
Les arrondissements de Paris, par Léon Paul Fargue, enregistré quelques semaines avant sa mort, en 1947.